Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous dédié à la gestion et à l'optimisation de votre patrimoine. Chaque mercredi, vous le savez, nos experts se retrouvent pour vous apporter des conseils, des analyses, du décryptage afin de vous aider à faire les meilleurs choix pour vos investissements. Alors au sommaire de ce 50e numéro de Cœur de patrimoine, on vous emmène dans un instant à Bordeaux pour dresser le bilan du salon Ville et patrimoine qui s'est tenu hier. Ambiance, temps fort, palmarès des lauréats du prix associé. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est dans quelques instants. Nous parlerons ensuite refinancement immobilier avec une promesse ambitieuse. Comment être riche en pierre, oui, mais aussi riche en cash. C'est une solution concrète qu'on vous apporte à la clé. Et puis, deux indices entre guillemets emblématiques de la French Tech viennent d'être mis à jour. Le Next 40 et le French Tech 120. Que faut-il en retenir? Que disent-ils de la dynamique actuelle? On fait le point. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour commencer donc ce cœur de patrimoine, on rejoint tout de suite Bordeaux et Marie Séchet est en duplex avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder ces quelques petites minutes. Présidente, cofondatrice du salon Ville et patrimoine donc qui s'est tenu hier à Bordeaux et on était ravis d'être avec vous et on va essayer de tirer un petit peu le bilan de cet événement, dernière édition donc de ce salon qui en a déjà compté quelques-unes. D'abord peut-être rappelez-nous un petit peu justement ce qu'est ce salon qui s'est tenu hier au Palais de la Bourse de Bordeaux.
Le Salon Ville et Patrimoine a été lancé pour la première fois en 2022. C'est le premier salon en France dédié à la thématique de la réhabilitation du bâti existant. Ce salon est vraiment le rendez-vous annuel de la profession, dédié à la fois aux opérateurs immobiliers qui proposent des solutions dans l'ancien, mais évidemment et aussi surtout au CGP pour permettre à toute la profession de gestionnaire de patrimoine de découvrir tout l'écosystème de l'immobilier dans l'ancien.
Alors, c'est vrai que c'était très agréable d'échanger, etc., dans les allées de la nef de ce palais de la Bourse de Bordeaux. Un petit mot peut-être de l'ambiance, celle que vous l'avez vécue, vous, en tant que présidente, que cofondatrice de ce salon. Qu'est-ce que vous ont dit les exposants? Qu'est-ce qu'on pensait, entre guillemets, les visiteurs? Voilà, la tenue des échanges.
Alors, les exposants qui nous font confiance maintenant depuis 4 ans, puisqu'on est vraiment sur la 4e édition du salon, ont été très satisfaits de cette 4e édition, puisqu'en fait, ça nous a permis de réunir près de 40 exposants spécialisés dans cette thématique. Et également, on a eu à peu près 800 visiteurs qui étaient présents sur cette édition. Donc ça a été un magnifique succès. Ce que je peux dire en termes d'ambiance, c'est que compte tenu de l'incertitude des marchés immobiliers depuis plusieurs mois maintenant, et c'est vrai que ça a un petit peu duré, c'est un excellent moyen de se retrouver et de pouvoir partager, échanger, pouvoir se retrouver entre confrères, etc., dans ce contexte. Et donc, les exposants ont été très satisfaits parce que c'est vrai que depuis plus d'un an, comme je disais, le contexte était un peu particulier. Les CGP, enfin les conseillers en gestion de patrimoine, ça leur a aussi permis de pouvoir retrouver leurs partenaires, mais aussi de découvrir de nouveaux acteurs qu'ils n'avaient pas l'habitude de connaître. Mmh. Et ils étaient aussi très, très, très ravis de pouvoir retrouver leur chambre de CGP, puisque toutes les chambres étaient représentées hier au salon.
Oui, d'ailleurs, il y avait pas mal au programme, pas mal de choses, hein, des tables rondes, entre guillemets, des débats d'experts. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'en animer un, mais il y avait aussi justement des formations validantes qui étaient prises en charge par certaines chambres. Donc, c'est vrai que c'est la preuve que cet écosystème vit aussi au cœur de ces mouvements-là. Hein. Quel était le programme, justement?
Alors, le programme était très riche cette année, puisqu'en fait, on a proposé deux débats d'experts dans le courant de la journée sur deux thématiques. La première thématique, c'était réhabiliter son cœur de ville grâce au dispositif Malraux. Pardon. Et la deuxième thématique, c'était le 2 Normandie au secours des villes moyennes. Donc ça a été animé par un certain nombre de partenaires de qualité, donc ça a été très apprécié. Et nous avons également proposé deux formations validantes auprès des adhérents de la compagnie des CGP et de l'Anacofi sur les thématiques de la restauration du patrimoine et sur le 2 Normandie optimisé au déficit foncier. pour leur permettre également de valider des heures sur la thématique immobilière.
Voilà donc pour une partie du programme, en plus évidemment de tous les échanges et les discussions qui ont eu lieu dans les allées, et puis presque point d'orgue, j'ai envie de dire. La remise d'un prix, c'est assez fréquent que dans les salons, il y ait une espèce de manifestation comme ça de prix. Le prix Viollet-le-Duc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce prix qui vient couronner en fait finalement des projets dans ce monde de la réhabilitation, c'est ça ?
Tout à fait, exactement. Donc, ce prix Viollet-le-Duc a été lancé pour la première fois en 2024, lors de la troisième édition l'année dernière. Ça a connu un très grand succès l'année dernière pour permettre de récompenser les meilleurs réhabilitateurs. Donc, c'est vraiment un prix très spécifique justement sur la thématique du Salon Ville et Patrimoine. Nous avons eu cette année pour 2025 à peu près une vingtaine de candidatures sur trois thématiques, sur trois catégories. La catégorie emblématique, la catégorie de charme et la catégorie environnementale. Et donc, effectivement, ça a eu lieu pendant le salon à 16h pour permettre de récompenser les meilleurs réhabilitateurs.
Et alors, dites-nous tout, révélons maintenant au grand public, entre guillemets, qui a gagné.
Alors, nous avons eu trois lauréats. Sur la catégorie de charme, le lauréat a été Mérimée Promotion. Pour la catégorie emblématique, le lauréat a été Next City Héritage. Et pour la catégorie environnementale, le lauréat a été Caractère.
Et bien voilà qui est dit. Donc petit compte-rendu de ce salon que Radio Patrimoine et Radio Immo ont été ravis de couvrir hier. Merci beaucoup Marie de vous être prêtée au jeu de cette visio. Tant que je vous tiens, est-ce qu'on annonce déjà la date de la prochaine édition ?
Absolument. La date a été fixée au 11 juin 2026, toujours au Palais de la Bourse de Bordeaux, avec probablement une grande actualité l'année prochaine, c'est qu'on va certainement lancer les assises de la réhabilitation. Donc, ça sera une grande nouveauté de l'année prochaine.
Eh bien, le rendez-vous est déjà pris. Les CGP peuvent l'inscrire à leur programme sur les tablettes. Merci beaucoup, Marie Séchet, donc présidente et cofondatrice du salon Ville et Patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après avoir rejoint les quais de Bordeaux, on revient à Paris dans le studio de Cœur de Patrimoine pour accueillir Florent de Rocacera. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondateur de HYPO, H-Y-2-P-O. Il va falloir que nous expliquiez un peu d'où vient l'idée. Fintech donc, avec un sujet quand même hyper précis, le refinancement immobilier. Comment vous est venue l'idée d'abord ?
Donc HYPO est né du constat que l'immobilier, c'est la classe d'actifs majoritaire en France. Elle pèse 62% du patrimoine des Français. Et cette classe d'actifs est finalement très peu travaillée dans les stratégies patrimoniales. Et donc ça, c'est donc le point de départ de HYPO. Le refinancement était connu, notamment auprès d'une clientèle donc haut de gamme des banques privées qui sont friands du levier donc de la dette. Et aussi une clientèle donc plutôt en difficulté, donc autour des produits du RAC, du regroupement de crédit. Et donc, on s'est posé la question donc, de pourquoi. Et puis, donc, nous est venue l'idée de développer une plateforme qu'on aurait pu proposer donc, à une clientèle plutôt haut de gamme patrimoniale avec des solutions de refinancement sur étagère. Aujourd'hui, HYPO, c'est quoi ? C'est une plateforme de financement et de refinancement pour cette clientèle patrimoniale de particuliers et de professionnels qui sont mal servis par leurs banques parce qu'ils ont soit des besoins donc, atypiques ou des besoins trop complexes. Et donc, on les accompagne donc, sur ces refinancements et ces financements avec donc, aujourd'hui un réseau de 65 prêteurs européens.
Et le terme HYPO, ça vient de hypothèque
Donc voilà, HYPO, c'est un peu un clin d'œil à une des garanties qu'on pratique, donc la garantie hypothécaire. Donc c'était la première garantie donc, qu'on a développée, qu'on a mis en place. Et donc ça nous permet effectivement de prêter dans des cas d'usage qui sont assez peu travaillés en France, où les banques traditionnelles ne vont pas.
Bien, le décor est donc posé. On va essayer d'expliquer maintenant comment ça marche. Concrètement, je suis propriétaire. J'ai un bien que j'ai déjà payé ou que j'ai quasiment payé. Qu'est-ce que vous me proposez de faire ?
Donc finalement, un prêt hypothécaire permet simplement donc de pouvoir emprunter dans des cas d'usage où, comme je l'ai dit, les banques ne prêtent pas. Un prêt hypothécaire fonctionne, finalement, c'est une recharge de crédit. On a un bien amorti, on a une situation donc économique viable et on peut donc proposer cette garantie hypothécaire à un prêteur pour financer un projet qui ne serait pas forcément finançable en banque traditionnelle. Il faut bien sûr que donc la garantie, c'est une chose. Il faut bien sûr aussi avoir un projet sérieux et puis donc la capacité de rembourser ce prêt, évidemment. Donc un prêt hypothécaire, ça reste une hypothèque, mais une hypothèque, c'est simplement une garantie où on va jamais... Enfin, l'idée, c'est jamais de faire jouer cette garantie donc comme un prêt traditionnel. finalement.
Mais alors du coup, à qui vous vous adressez? Parce que vous nous avez un petit peu dessiné, esquissé plus exactement un début de portrait dans votre introduction, mais des retraités, des investisseurs, ou alors au contraire, par exemple, des personnes surendettées, à qui ça s'adresse en fait,
Hippo? Donc finalement, ça s'adresse à plusieurs persona, donc plusieurs typologies de personnes. Donc aujourd'hui, en termes de particuliers, on a plutôt donc une clientèle mécaniquement un peu plus donc senior, qui a développé du patrimoine, mais pas que, aussi des chefs d'entreprise. Par exemple, un prêt hypothécaire est très adapté à une clientèle donc d'actifs, par exemple malade, qui ne peut pas donc s'emprunter avec une garantie, donc pardon, une assurance. Et donc là, la garantie hypothécaire joue. Ou alors un senior qui lui-même est un peu trop vieux pour qu'on lui offre donc une garantie, une assurance. Et donc là, encore une fois, on utilise la garantie hypothécaire. Donc ça, c'est un des cas d'usage principaux. Le second cas d'usage pour les particuliers, c'est s'adresse à une clientèle haut de gamme de chefs d'entreprise qui souhaitent, par exemple, transmettre son patrimoine. Et donc là, donc, on travaille avec eux sur des montages donc, qui s'appellent par exemple des montages de vente à soi-même, sur la structuration et donc le financement de ce type de montage qui permet donc une optimisation de l'IFI, dégager de la trésorerie et puis donc optimiser sa transmission.
J'ai envie de dire que, enfin, d'ailleurs, vous avez vous-même employé un petit peu le mot en tout début d'entretien, de banque privée. Vous faites quasiment le boulot d'une banque privée.
Donc, on fait, en tout cas, on travaille avec certaines banques privées. Les banques privées, donc, leur métier, c'est de placer de l'argent. Nous, effectivement, donc, on essaie d'offrir des financements structurés qu'on peut trouver en banque privée, sans forcément donc, les contreparties de placement qui vont avec. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une plateforme qui fait, en fait, des financements type banque privée, des financements structurés, sur mesure et à grande échelle. Donc, effectivement, avec la technologie, on essaie d'offrir ces types de financements en les démocratisant auprès du plus grand nombre.
Oui, parce qu'il y a de l'ingénierie patrimoniale, on va dire, de base, enfin, j'ai sophistiqué, mais de base, et il y a, et ça on le découvre bien quand on découvre votre solution, c'est qu'il y a aussi pas mal d'IA.
Un petit peu.
Qu'est-ce que ça apporte, cette IA?
Donc, deux choses. On l'utilise de manière, une côté client, où c'est vrai que donc on a rassemblé notre base de connaissances. Donc, on navigue au croisement de la fiscalité, du financement, de l'immobilier. Et donc, on a par exemple construit un chatbot qui s'occupe de la partie pré-vente. Donc, pour tout accompagner un client finalement dans toutes les questions qu'il peut avoir autour du prêt hypothécaire, autour d'une structuration patrimoniale. Et donc, ça permet donc aux clients d'avoir un retour fiable et immédiat, donc un meilleur service client.
D'accord.
Et du côté collaborateur, on utilise l'IA dans le traitement des dossiers de financement afin donc de faciliter ces dossiers de financement qui soient plus rapides et plus fiables en travaillant sur l'extraction des données directement donc des documents officiels et pas se baser sur le déclaratif du client. Donc par exemple, on extrait des données directement des 2044, des 2042, d'un avis d'imposition ou d'un bilan afin de pouvoir donc se baser sur des données fiables. Et donc ça nous permet d'être plus rapide dans l'instruction du dossier et donc encore une fois servir le client d'une meilleure manière.
Alors, ce refinancement immobilier, tout comme d'autres formes d'ailleurs de stratégie patrimoniale, on sait que c'est sur l'étagère, on en entend de temps en temps parler, mais on a l'impression que, je ne vais pas dire ça ne prend pas, mais que c'est sous-utilisé en France. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et est-ce qu'on peut imaginer, enfin, j'imagine que c'est aussi votre rêve ou votre défi, de développer, de démocratiser un petit peu, de combler une forme de retard? On sait que dans d'autres pays notamment, ça fonctionne beaucoup mieux.
Tout à fait. Donc moi, je pense qu'il y a en fait deux points à ça. Donc du côté client, c'est vrai que souvent, on entend donc hypothèque égale on est en danger, c'est le monopoly. Ouais. Et donc, ce n'est pas du tout comme ça. Fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je pense qu'il y a la culture financière en France qui n'est pas forcément assez développée. Et on le voit auprès d'une clientèle donc plus avisée, plus éduquée. Le levier de la dette peut être créateur de valeur. Et donc, c'est vrai que nous, on essaye de travailler là-dessus. Et d'un autre côté, en France, je pense que du côté prêteur, donc les banques n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur cette classe d'actifs immobilière, du fait que de un, on a la chance d'avoir aussi donc des organismes de cautionnement, type le crédit logement, qui évite cette hypothèque qui peut parfois être plus coûteuse.
Qu'on rappelle que traditionnellement, quand on achète un appartement, un bien ou une maison d'ailleurs, enfin un bien immobilier, on a deux façons de se garantir, soit crédit logement,
donc un cautionnement,
soit la fameuse hypothèque.
Exactement. Et donc ce cautionnement permet aussi aux banques d'éviter donc, de mobiliser des fonds propres. Et donc, c'est vrai qu'en France, en tout cas, elles ont plus l'habitude de faire ce cautionnement pour avoir donc, des ratios de financement voilà, beaucoup moins faibles.
Alors, c'est intéressant quand on est épargnant et qu'on se dit, tiens, je vais peut-être m'adresser à telle entreprise dont j'ai entendu parler, voilà, sur Radio Patrimoine. C'est sympa d'en savoir un petit peu plus aussi. Sur Ipo, 3 millions d'euros levés dès la création, c'était déjà une belle marque de confiance. Et maintenant, j'ai envie de dire, quels sont un peu les défis qui se présentent devant vous ?
Effectivement, donc on a réussi à lever 3 millions avec une ambition assez forte. Aujourd'hui, donc les 18 premiers mois de Ipo, on a passé pas mal de temps à construire cette plateforme technologique pour pouvoir accompagner les clients, mais aussi pour trouver donc des prêteurs prêts à donc financer ces cas d'usage dans toute l'Europe. Donc ça, c'était vraiment la première partie de notre projet. Et aujourd'hui, l'idée, c'est donc d'ouvrir notre plateforme métier à des tiers, dans un premier temps à tous les conseils de cette clientèle patrimoniale, donc que ce soit des notaires, des fiscalistes, des CGP, mais aussi des banquiers, des experts comptables, donc pour pouvoir finalement faire de l'apport d'affaires et donc développer finalement notre flux. Et dans un second temps, notre ambition sera d'ouvrir cette plateforme aux professionnels du financement, donc aux courtiers, avec un outil métier à leur disposition, moderne, avec l'IA, pour pouvoir pour leur donner cet outil pour générer leur financement.
Et ça, c'est dans un second temps, c'est-à-dire c'est quoi, à 2, 3, 4 ans
Non, tout à fait, c'est d'actualité, donc cette année. D'accord. Donc là, on a déjà commencé à ouvrir cette plateforme aux apporteurs d'affaires, et donc d'ici la fin de l'année, on pense pouvoir l'ouvrir à tous les mandataires.
Et vous arrivez à lever le nez du guidon et à voir encore un peu plus loin ou pas ?
Oui, donc c'est vrai que donc Ipo, c'est un projet ambitieux. Et donc d'ici 2030, on a l'ambition folle de pouvoir redistribuer en France jusqu'à 100 milliards d'euros. Donc pour financer des thèses qui sont importantes pour nous, que ce soit le bien vieillir, que ce soit la rénovation énergétique ou alors l'investissement ou le pouvoir d'achat. Donc on a des plans assez ambitieux qu'on essaie d'atteindre.
Bon, pour terminer, Florent Rocacera, les deux, trois petits tips, les deux, trois petits trucs comme ça que vous auriez envie de glisser à un épargnant qui vous a découvert ce matin sur Radio Patrimoine pour le convaincre de se dire propriétaire ou futur propriétaire, comme on le titre là, hein, être riche en pierre et riche en cash.
Voilà, de notre côté, on développe un service pour eux, pour des gens qui ont du patrimoine et qui souhaitent donc refinancer. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas en France, l'hypothèque, c'est pas du tout donc, ce qu'on entend en monopoly, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être créateur de valeur. Comment on utilise le levier et puis comment on peut s'endetter à des taux proches des taux immobiliers pour l'investir sur des supports qui sont peut-être plus agressifs. Et l'idée, c'est comment on mobilise un patrimoine dormant pour en faire plus et puis mécaniquement pouvoir le doubler à 15-20 ans.
Florent de Rocacera, de cofondateur d'Ipo HY2PO. Merci beaucoup d'être passé sur Radio Patrimoine, dans Cœur de Patrimoine. Nous, on poursuit et on va parler tech, indices. Wow, on va changer de monde. À tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rejoint maintenant des indices dont vous entendez peut-être parler de temps en temps et on va s'attarder un petit peu là-dessus pour voir un petit peu ce que peuvent nous dire leurs récentes mises à jour. Sébastien Coinon est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Pour So We Found, donc les meilleurs élèves de la French Tech, deux indices, je le disais, qui viennent d'être mis à jour. Ces indices, ils s'appellent le Next 40 et le French Tech 120. Déjà, c'est quoi le programme ? C'est quoi l'objectif de tout ça ?
Pour être franc, c'est plus une sélection assez objective, faut le reconnaître, qu'un indice, parce que par définition, ces boîtes ne sont pas cotées, donc il n'y a pas de valorisation.
Un indice fictif, entre guillemets.
Au quotidien, voilà. On pourrait dire, pourquoi pas une antichambre à la Bourse de Paris, parce que certaines rêvent un jour d'être cotées, de faire comme les grands, mais certaines nous ne prendront pas chemin, et parfois on ne leur souhaite pas forcément, parce que peut-être plus safe d'être en dehors des marchés cotés. Donc, Next 40, French Tech 120. Donc, comme son nom l'indique, dans le 120, il y a tout le monde, un peu comme le SBF 120, l'image, vous la voyez. Et puis, Next 40, c'est les 40, c'est censé être les 40 plus grosses. Au début, c'était effectivement les premières années, quand c'est sorti il y a 5-6 ans, essentiellement, c'est vrai, sur la base des valos et même surtout des levées de fonds. Bon, on est un petit peu revenu. Maintenant, on soulève le capot et on regarde si ça tourne, si il y a un petit peu de
on essaie d'en savoir un peu plus, quoi.
De business model, effectivement. L'idée, c'est de les mettre en lumière, de les accompagner aussi, parce qu'il y a tout un programme, tout ça échapoté par une mission du ministère de la de l'économie, donc de Bercy. Mais en revanche, pour cette sélection, là, on fait appel à des investisseurs, donc des VC, qui ont pignon sur rue pour voir et à screener un petit peu, voir critère par critère si on les remplit. Alors, Cocorico, nous, pour Soifan, puisqu'on a une boîte dans le Next 40 et une autre dans le French Tech 120, donc Équateur dans l'énergie, opérateur donc sur les énergies renouvelables, et Pixmania, vendeur d'appareils électroniques, smartphones, etc. Et reconditionneur maintenant, hein, près de Paris à Levallois, de téléphones. Donc là, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'avec, et il y a 10 jours, ce Next 40, French Tech 120 et Vivatech en fin de semaine dernière, avec un niveau record, une affluence à plus de 180 000. Ça nous prépare là sur l'été, on va dire, ça nous donne un peu de vent dans les voiles dans un secteur qu'on a bien besoin, il faut le dire.
Alors justement, cette mise à jour, cette promotion 2025, qu'est-ce qu'il faut en retenir, notamment, puisque vous nous avez dit qu'on fait un petit peu mieux et un petit peu plus que survoler les levées de fonds, sur le critère finalement assez clé qu'est la rentabilité?
C'est le nerf de la guerre et le message est reçu effectivement chez les entreprises, bon, qui n'avaient pas vraiment le choix puisque effectivement comme le robinet de l'argent c'est en grande partie fermé, bah, il faut abaisser son point mort, le break-even et se rapprocher de ce jour où on ne crame plus d'argent et c'est quand même un peu la spécialité des startups hein, de perdre un petit peu chaque mois, quand je dis un petit peu parfois c'est en millions voire en dizaines de millions d'euros. Donc hors deep tech, intéressant de noter que dans cette nouvelle promotion on a quand même pratiquement une sur deux, donc 44% des startups qui sont rentables désormais. C'était 30% en 2024, donc 15 points, quasiment 15 points de plus. Après, c'est vrai, les années d'investissement, donc ce n'est pas le fruit du hasard. On peut citer des Brevo, qui est un logiciel CRM, entre autres, Swile, qui est tout ce qui est avantage salarié, concurrent d'un Edenred, par exemple, Vodoo sur le jeu, ou WizEvent.
Ça veut dire que ce chiffre, il raconte aussi quelque chose sur la façon dont tournent les boîtes, dont finalement elles ont ciselé un petit peu leur modèle économique.
Oui, exactement. Nos scale-up ont réussi à se transformer, Cédric, clairement, et à transformer donc cette innovation en succès. Parfois, on va y venir, succès commercial et succès international, malgré les cycles d'investissement qui sont souvent longs, on l'a dit, ça se compte en années. Hein, la plupart de ces boîtes, elles ont minimum 5 ans, parfois 10 ans, parfois plus de 15 ans. Donc, c'est plus vraiment les startups, hein, on est sur de la grosse PME, voire ETI. Et puis, voilà, une rentabilité qui est maintenant, ça va, un nouveau marqueur de solidité. Ça rassure évidemment, ça rassure d'abord leurs investisseurs, ça crédibilise leur modèle d'affaires dans un contexte qu'on a dit où aujourd'hui c'est plutôt cette rentabilité avec de la croissance qui est saluée plus que la croissance à tout prix. Alors, malheureusement tout le monde n'est pas à la fête, hein. Un seul exemple pour vous en convaincre, Cédric, Sorare, je ne sais pas si ça vous parle, Sorare, donc c'est toujours le roi du fantasy football, donc à la mi-chemin entre NFT, jeux vidéo, sur le foot, dédié au foot, mais ils sont allés signer avec plein d'autres ligues hors du foot, hein, je pense notamment au baseball aux États-Unis. Ils avaient levé il y a 4 ans, donc 680 millions d'euros, c'était complètement dingue. Et selon vos confrères de l'informé, le chiffre d'affaires ne cesse de fondre, les pertes s'accumulent, tous les concurrents ont mis la clé sous la porte, de sorte que maintenant la valo de Sorare dépasserait pas les 200 millions d'euros. Juste, jetez-vous à l'eau, Cédric. Ça valait combien il y a 3-4 ans, Sorare, selon vous? 200 millions aujourd'hui, à l'époque? Au plus haut? 4 milliards. Plus de 4 milliards. Donc divisé par 20 en 3 ans. Ça va vite.
Bon, vous parliez d'international. Si on excepte peut-être ceux qui ont quelques trop passager. Y a une dynamique à l'international quand on est là, quand on est dans les clous, quand on a bien mené sa barque.
Clairement, en moyenne, donc les entreprises du French Tech 120, Cédric, elles réalisent plus du tiers de leurs ventes, de leur CA hors de France. C'est considérable. Ça prouve que nos startups, encore une fois, elles se contentent pas du marché, du petit marché, du marché français, ce qui est tout le problème d'ailleurs. Hein, c'est un peu notre talon d'Achille, c'est qu'on n'est pas un petit marché comme Israël, Belgique, Suède. Donc, on n'est pas contraint à jour 1 d'aller à l'international. Oui. Sauf que bon, c'est un marché qui finit au bout de 5, 10, 15 ans à être moyen. Bon, là, on s'en rend compte. Et si on n'a pas pris le train à l'international, là, c'est souvent un peu trop tard. Donc, elles gardent leurs ambitions. Mais voilà, maintenant, elles sont matures, mais aussi compétitives hors de nos frontières.
Ouais, vous avez rappelé tout à l'heure, en les décrivant un peu, qu'il y avait des startups, bien évidemment, mais que certaines étaient déjà un peu amarinées, que c'était des mid-cap ou des ETI, enfin voilà. Ça veut dire que toutes ces boîtes qui intègrent ce programme ou ces indices, appelons-les comme ça, elles sont regardées, elles sont intéressées, les grands groupes, les grands noms, travaille avec ces gens-là ?
Clairement. Vous avez vu là pendant Vivatech, on a vu un CMA-CGM faire appel à Mistral, hein, le petit chouchou de l'IA. C'est quand même un partenariat de 100 millions sur 5 ans. 100 millions d'euros, donc avec CMA-CGM. On a des institutions aussi, je pense à l'Assemblée ou à Bercy, qui signent avec des ALAN. Et donc là, ça va être des dizaines, voire plus de 100 000 fonctionnaires qui vont avoir comme mutuelle santé la scale-up française. Elles bossent aussi entre elles. Conto, Back Market, on travaille ensemble. Donc intéressant de voir qu'effectivement, maintenant, ce n'est pas juste des startups qui font des logiciels qui sont achetés par d'autres startups. Là, c'est...
Et il y a des secteurs plus dynamiques ou qui grignotent une grande part du gâteau dans ces fameux sélectionnés du Next ou du French Tech ?
Ouais, pour faire simple, donc toujours la tech au sens large, ça va être du logiciel, ça va être la fintech, ça va être la santé, donc la health tech. Et toujours, elle n'est pas morte et enterrée en France et en Europe, la green tech, chez nous on y croit encore, ça reste une longue traîne, donc on investit encore là-dedans.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé de deep tech. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelle est sa place ? Rappelez peut-être, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, de quoi on parle.
C'est de la recherche et développement, donc c'est de l'innovation de rupture. Et donc ça prend 5, 10 ans. On a vu Wondercraft la semaine dernière annoncer une levée à 75 millions qui était menée par Renault. Donc c'est de l'exosquelette santé pour faire marcher des gens qui ont eu un AVC, sclérose en plaques, etc. Paraplégique, tétraplégique parfois. C'est 10 ans de R&D, sans vendre le moindre exosquelette, et aujourd'hui, ça marche. Il y en a une centaine implantées sur 4 continents, c'est ça de la deep tech. Ça reste un segment, c'est vrai, à part, je vous ai dit, donc des cycles de développement très très longs, souvent pas rentables, les premières années évidemment au moins, et c'est représenté bien en France par des boîtes qui sont essentielles à notre innovation. Ça marche pas toujours, mais ça finit parfois par marcher, et c'est vrai que ça dessine un petit peu nos futures innovations industrielles avec des vrais sites. On aura à la rentrée, là, dans quelques mois, Vercor, dans les batteries à Dunkerque. On a déjà Exotech dans le Nord. Là encore, boum, c'est des robots. On a Fermat qui recycle des alliages, des alluves, comme de l'aluminium, etc. Ça se passe à Nantes. Donc là, c'est du concret. Et on est numéro un en France là-dessus, donc sur la deep tech, en termes de levée. Numéro un en Europe et numéro 4 au niveau mondial. C'est pas rien.
Oh, c'est pas mal. On va dire cocorico. Pour conclure. Quelle leçon vous tirez de cette promotion 2025, que ce soit bien sûr pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs ?
Deux leçons. La rentabilité, qui évidemment, ça on l'a dit, c'est devenu clé. L'étranger. Donc là, il faut s'adapter d'abord localement, des équipes multiculturelles. On parle en anglais, on a une capacité à lever des fonds en dehors de nos frontières. On investit dans la relation client, dans le marketing. Et puis le troisième, évidemment, l'effet qui se coule. Je vous parlais de Mistral tout à l'heure. Évidemment, Cédric, c'est l'IA. Les deux lettres
Oui, mais justement, en fait, oui, vous avez parlé de Mistral, mais en fait, ça fait une dizaine de minutes qu'on cause de tech.
Ouais.
Et on n'a quasiment pas prononcé le mot d'IA.
Parce que déjà, tout le monde en parle, donc je voulais être un peu différenciant pour vous, Cédric.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce ou l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mistral. Ils ont levé 600 millions, ils sont apparemment encore en train de lever 1 milliard. Rendez-vous compte, 1 milliard, c'est complètement fou. Sauf que derrière, il faut qu'on parle des autres. Donc, des boîtes que vous connaissez moins, qui vont s'appeler Hugging Face, FlexAI, Poolside ou Gladia. Ce serait bien aussi qu'on les mette comme ça à l'Elysée ou à Vivatech, etc., en avant. Parce qu'on a bien compris, maintenant, Mistral, c'est le ChatGPT français, mais il y a la quantité d'autres. Il y en a des dizaines, voire des centaines d'autres qui attendent et qui aimeraient bien aussi avoir un petit peu d'exposition. Voilà. Et un peu d'argent aussi.
Merci Sébastien. Sébastien Coinon donc pour So We Found, et on peut également vous retrouver et vous suivre chaque semaine avec votre podcast Tech 45. Merci d'être passé.
À bientôt.
Et on se retrouve le mois prochain. Voilà, on arrive au terme de ce numéro de Cœur de Patrimoine. Merci pour votre confiance et votre fidélité. J'espère que les conseils et les éclairages du jour vous permettront d'y voir plus clair, et nous on se retrouve la semaine prochaine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.